88.3 FM.
Elle sera bientôt un peu partout.
Contestation. Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Merci de nous rejoindre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours pour une nouvelle édition d'Abaton Rompu, magazine d'info du mardi soir 19-20h. Une nouvelle édition consacrée ce soir encore aux prochaines municipales à Orléans, les 15 et 22 mars prochains. Vous le savez maintenant, nous avons invité ce soir Ludovic Bourreau. Bonsoir Monsieur Bourreau.
Bonsoir.
Ludovic Bourreau, vous êtes élu d'opposition à la mairie d'Orléans, vous êtes sans étiquette.
Absolument.
Centriste un peu ?
Oui, j'allais dire centriste par méthode.
Vous avez en tout cas annoncé il y a quelques jours votre ralliement à la liste OSE, Orléans Solidaire Écologique, conduite par Jean-Philippe Grand. Vous nous direz les raisons de ce ralliement. Pour vous interviewer ce soir, Thomas Deray. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Hassan. Bonsoir tout le monde.
Nous entendrons un reportage de Thomas sur les résultats de la législative partielle. C'était dimanche dernier.
Ouais, je sais pas si ça va vous passionner, mais on va faire avec. Hein.
On a une, si. 35 secondes, ça va le faire.
On a une députée donc.
Ouais, on a une députée.
Dans la première séquence.
Semble-t-il, ouais. Semble-t-il.
Victor est là. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan.
Attends, mais je.
Alors, micro, c'est bon.
Micro.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et Philippe Adef qui est là aussi. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir Hassan, bonsoir à tous.
Qui démarre cette émission avec son édito.
Oui, alors Ludovic Bourreau, vous voilà plongé pour la seconde fois au cœur de la bataille des municipales. Étonnamment, votre principale réussite au plan culturel et public, vous l'avez réalisé alors que vous n'étiez pas engagé dans la vie politique locale. Et je ne parle pas là du stud, ouvrage édité répertoriant cette part de vie culturelle orléanaise, support qui existe toujours d'ailleurs, avec un autre éditeur. Non, je parle de la dernière décennie où, sous la mandature d'Olivier Carré, vous avez visiblement trouvé un soutien à votre vision de la culture. Ce mur qui perdure encore aujourd'hui avec pas moins de 51 fresques, présentées de façon éphémère sur un mur du cinéma des Carmes, vous a semble-t-il laissé à penser que vous pouviez faire plus et mieux au sein d'une équipe municipale. Il y a donc une certaine logique à vous retrouver en bonne place sur la liste d'Olivier Carré en 2020. Ce n'est probablement pas là votre souvenir le plus heureux compte tenu de l'ambiance de cette campagne face principalement à Serge Grouard. Mais à l'inverse d'autres, vous allez siéger durant toute cette mandature avec toute la difficulté d'être dans l'opposition et pire, avoir été un soutien affiché d'Olivier Carré. La double peine quand on siège au sein du conseil municipal d'Orléans. Vous n'avez pourtant pas cherché à vous échapper de cette posture inconfortable et vous décidez de vous préparer même très en amont pour les chances de 2026. Ni de gauche ni de droite, vous avez tenté de faire émerger une vague citoyenne prête à prendre à bras-le-corps son destin au plan municipal. Plusieurs années à écouter, à interroger, à tenter de fédérer pour finalement plus ou moins jeter l'éponge. Votre parcours est finalement étonnant quand on imagine que votre plus belle réussite orléanaise date d'une époque où vous n'étiez pas impliqué politiquement parlant, car le mur continue à s'exprimer. Quant à vous, Ludovic Bourreau, vous vous exprimerez en partie aujourd'hui par le biais de Jean-Philippe Grand, auquel vous avez décidé d'apporter votre soutien, plutôt que de continuer dans une aventure aux côtés de l'ex-députée macroniste, Caroline Janvier. D'ailleurs, quelle idée ! Quelle était l'ambition de cette aventure politique ? On brûle de savoir. En réalité, Ludovic Bourreau, on a hâte de mieux vous connaître, car on comprend facilement l'idée que vous exprimez, mais pas toujours le chemin que vous empruntez.
Radio Campus Orléans, vous écoutez l'émission à bâton rompu.
Quelques mots, quelques réactions, Ludovic Bourreau.
Oui, avec plaisir. Merci pour cette introduction qui me rappelle à moi-même que ce magazine Stud, hein, que j'ai dirigé pendant 11 ans.
C'est une vrai. Pensée c'est vrai. Au co-éditeur de l'époque.
Une pensée à Philippe voilà, qui nous regarde peut-être là où il est.
On l'embrasse.
Et toutes ces années, nous avons parlé de l'actualité culturelle à Orléans et c'est comme ça que je suis arrivé au conseil municipal. Je ne viens pas des partis, je viens de la société civile et comme la plupart des Français... Je me tiens à l'écart des partis, je n'ai jamais été encarté et je pense que c'est une clé aujourd'hui quand on regarde les sondages. Voilà, il y a une détestation des partis, c'est objectif, voilà, je ne suis pas spécialement heureux, c'est ainsi. Voilà comment je suis arrivé en politique et comment je me suis intéressé à d'autres sujets, parce que quand on est élu au sein d'une assemblée, on traite tout un tas de sujets en commission, donc j'ai commencé par la culture mais également la transition écologique. Qui est pour moi la mère de toutes les batailles, qui doit être au cœur de toutes les réflexions et au cœur de toutes les politiques publiques. À mi-mandat, vous l'avez bien souligné, hein, je suis resté droit Vous avez parlé d'un parcours sur lequel on avait pas, on dit peut-être du mal à me suivre, mais je considère que je suis resté droit, droit dans l'opposition, droit dans mes valeurs et mes principes. Et il y a quelques années, j'ai créé l'association Vivement Orléans pour regrouper des Orléanais, encore une fois, qui souhaitaient penser leur cadre de vie. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à mener des réflexions sur le projet des mailles, sur la culture, sur le sport, encore d'autres sujets. Et puis, vous m'avez posé une question importante sur Caroline Janvier, puisque en fin d'année, en effet, nous avons annoncé un rassemblement de nos deux énergies, nos deux associations. Nous avons mené une phase de travail qui n'a pas été concluante. Voilà, c'est ainsi. Je crois qu'il faut savoir parfois reconnaître qu'on a fait une erreur.
C'est une erreur, alors. C'était ?
Eh bien, je le dis, ça n'a pas été concluant. Pour autant, Caroline conserve à cet instant toute ma sympathie et mon respect. Nous avons pris des chemins divergents pour ces élections municipales. Et j'ai rejoint, en fait, vous l'avez bien décrit, Jean-Philippe Grand. Alors, vous pouvez me dire, et l'association OSE, qui est un collectif citoyen, vous pourrez me dire pourquoi j'ai choisi OSE. Bah parce que pendant tout ce mandat, on a travaillé avec Jean-Philippe. On a travaillé en commission, alors ça les gens ne savent pas forcément, mais le comité de réflexion sur l'avenir du Festival de Loire, les deux élus d'opposition, c'était Jean-Philippe et moi. Les mailles, quelles sont les deux associations orléanaises qui ont traité de ce sujet-là en dehors des assemblées? C'est l'association OSE et Vivement Orléans. Le sujet des pistes cyclables, quels sont les élus qui les ont traités au conseil métropolitain? Notamment Jean-Philippe Grand et moi-même. Donc en fait, au final, je pourrais rajouter encore une fois la question du cadre de vie qui nous est commune. Et donc parlons aussi de, voilà, d'écologie et finalement s'intéresser à la qualité de l'eau, à la qualité de ce qu'on mange, à la qualité de l'air qu'on respire. C'est au moins en partie ce qui nous rassemble, Vivement Orléans et OSE.
Alors cette campagne justement, elle a débuté il y a déjà un petit moment, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on commence à parler des municipales 2026. Pourquoi ce ralliement tardif? Pourquoi cette longue phase de réflexion avec Caroline Janvier, dont on a l'impression elle-même qu'elle a rechigné ou qu'elle n'a pas véritablement pris le mouvement des municipales? On la voit arriver maintenant, elle se propose comme candidate, on verra après si elle a une capacité à pouvoir fédérer 54 autres personnes sous son nom. Mais pourquoi ne pas vous être engagé plutôt avec d'autres candidats ou éventuellement avoir porté une liste solo? Pourquoi pas? C'est tout autant de chances que de réussir avec Caroline Janvier.
Il y a plusieurs questions dans votre question. Je me permettrai pas déjà de répondre à la place de Caroline. Si vous souhaitez, vous pouvez l'inviter.
Vous pouvez répondre en votre nom, par contre.
Elle sera là bientôt, je crois.
Elle sera la semaine prochaine, à votre place.
Oui, donc vous pourrez lui demander à ce moment-là. La question du timing et de la réflexion, on a fait les choses dans les temps, que je sache.
En tout cas, oui.
On a fait les choses dans les temps. Nous avons signé ce ralliement au mois de janvier. Nous avons 2 mois de campagne à faire. C'est ainsi. Je l'ai dit il y a quelques instants. Je reconnais qu'on peut parfois se tromper, c'est humain, et que on peut continuer son chemin chacun de son côté en se respectant.
Thomas,
c'est quelque part ma question. Elle suivait quand même ce que vous disiez. C'est vous parliez de ce travail fait en commun avec Jean-Philippe Grand, justement en tant que conseiller municipal. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas rallié dans ce cas-là dès le départ avec la liste de OSE si finalement les atomes crochus étaient présents? Pourquoi finalement ce choix de Caroline Janvier et un mois et demi à peine après l'annonce de votre candidature commune? Vous partez finalement avec OSE. Je pense que les électeurs et les électrices aimeraient quand même savoir un peu vers qui ils se tournent pour le coup.
Dites-nous, Ludovic Bourreau, les Français veulent savoir.
Les Orléanais déjà veulent savoir, ce qui est déjà pas si mal.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'adore cette phrase, les Orléanais veulent savoir.
Nous aussi on veut savoir, les journalistes.
Oui, mais vous avez bien compris que je suis bien trop respectueux des uns et des autres pour donner tous les détails, tout simplement. J'ai reconnu que je m'étais trompé et que je m'étais engagé avec mon association dans une autre voie sur la base de valeurs, de principes, Orléans solidaire, écologique, qui sont des piliers importants. Et par ailleurs, cette discussion avec Jean-Philippe Grand et l'association OSE, elle nous a aussi regroupés sur un constat, je dirais assez violent, de la fracture territoriale.
Oui, vous disiez ça dans les interviews. Ça veut dire quoi ?
Oui, ça veut dire que c'est des échanges qu'on a eus au long cours avec cette association. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on avait ce principe en commun de vouloir mettre fin à cette fracture entre le centre-ville, l'hypercentre et les quartiers de la périphérie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis 25 ans, le maire d'Orléans n'est pas le maire de tous les habitants. Chaque habitant paye ses impôts de manière équitable. Pour autant, il n'y a pas les mêmes services dans les différents quartiers. Vous observez les uns et les autres, là où vous habitez. Moi, j'habite quartier Bourgogne. Je ne suis pas sûr totalement que la propriété des rues de mon quartier soit la même que celle du quartier touristique. Je ne suis pas sûr que l'éclairage de certains quartiers soit le même. Je ne suis pas sûr de la qualité des rénovations des équipements, que ce soit les équipements sportifs ou les écoles soient les mêmes dans tous les quartiers. C'est cette fracture territoriale dont nous parlons et c'est effectivement un constat commun que nous avons fait avec l'association OSE et que nous allons porter cette ambition de répondre à ce constat et de mettre fin à cette fracture territoriale.
Alors vous avez évoqué le fait que vous étiez aussi au départ parti sur un mouvement associatif. Combien étiez-vous dans ce mouvement et est-ce que vous leur avez posé la question de savoir si un ralliement avec Jean-Philippe Grand serait pertinent et qui vous suit dans cette aventure ?
Alors, on était une cinquantaine d'adhérents à la création de l'association. Effectivement, c'est des choses qu'on discute entre nous au sein du bureau. Donc, la première association, nous en avons parlé tout à l'heure, a été votée, le départ également, et la nouvelle association de même. Donc un certain nombre de personnes, on l'a communiqué, à peu près 6 personnes de notre association, que notre collectif Vivement Orléans fera partie de la liste rose, des militants également. Ils et elles ont toujours été libres, en fait, de leur engagement. On sait très bien que dans ce type d'association, il y a ceux qui veulent bien être élus, ceux pour qui c'est égal, et ceux qui souhaitent être juste sympathisants. Et donc, ça se répartit régulièrement en 3/3. Ce qu'il est important de noter également, c'est que dans ce contexte que je vous ai décrit tout à l'heure, de regard très dur à l'endroit des partis politiques. On entend parfois même des chapeaux à plumes. Enfin, je veux dire, c'est des remarques très fortes.
Et vous le croyez ça, vous-même ? La politique, c'est sale ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. La politique, c'est le quotidien, c'est la porosité avec les habitants, c'est se préoccuper de leur quotidien et d'en parler avec eux et d'agir. Pour moi, la politique n'est pas liée à un parti. Et c'est là où je voulais en venir. En tant que président de mon association, je n'ai jamais encarté. Je n'ai jamais distribué un tract d'un parti politique. Je ne critique pas ceux qui l'ont fait. Je dis juste que c'est une singularité. Et qu'au sein de l'association OSE, nous sommes 3 collectifs citoyens qui se sont rejoints et que cela fait une spécificité dans le champ de ces municipales.
Thomas,
dans votre décision également de rejoindre OSE, comment ça s'est passé justement cette discussion avec les militants, la cinquantaine de personnes avec lesquelles vous étiez ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez décidé par vous-même ? Est-ce qu'il y a eu des discussions, des débats ? Comment est-ce que ça s'est passé à l'intérieur pour que finalement vous preniez cette décision ?
Cette décision, elle se fait sur des valeurs. Voilà, c'est les valeurs dont je vous ai parlé, se préoccuper du quotidien des habitants notamment, la question de la transition écologique était très importante, le retour à la proximité, je viens de le suggérer, que nous ne sommes pas dans un mandat de proximité, ça n'est pas le cas depuis 25 ans, donc ça ce sont des valeurs du quotidien, en plus de la solidarité et du pilier et de la transition écologique. Donc c'est sur ces valeurs-là que nous avons voté ce ralliement, tout simplement.
Okay.
Je le précise, parce qu'on dit souvent des négociations, on n'a fait aucune négociation pendant des semaines. Mais on a parlé de valeurs, de projets, et nous sommes arrivés au sein du collectif OSE avec une copie, des valeurs à défendre, des piliers qui peuvent être aussi la bonne gestion notamment, l'attractivité économique notamment, les relations internationales et des propositions culturelles. C'est avec ce dossier et ces propositions que chacun d'entre nous a participé à écrire. C'est sur ces valeurs et ces propositions que nous sommes arrivés en discussion.
Bon, on rappelle que votre collectif Vivement Orléans a été créé en 2023, hein, donc 3 ans avant les municipales, et vous avez travaillé sous forme d'atelier. J'ai vu passer.
C'est très dans la mouvance en ce moment.
Oui, mais la co-construction.
Non, mais je me moque
oui,
pas, non, évidemment.
Oui. C'est ça, hein, la co-construction.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est parti de en mode café.
Oui, voilà, c'est ça, absolument.
En mode café, par petites réunions d'une trentaine de personnes à chaque fois. Et puis, on a commencé par sonder, en fait, les besoins, les envies des personnes qui étaient là dans ces réunions. Et puis, très rapidement, les discussions sont arrivées sur le sujet des mailles à l'époque, qui est un sujet politique majeur et qui le sera dans les années qui viennent. Et que nous avons lu dans le détail, que nous avons pris le temps d'analyser et sur lesquels nous nous sommes fait une opinion. Et nous avons, comme vous l'avez... D'ailleurs, je suis venu en parler ici il y a quelques années.
Oui, absolument.
Nous avons, formalisé une critique dans le détail et dit en quoi nous souhaitions que ce projet soit différent. Et puis ensuite, j'ai porté avec d'autres ce sujet-là au sein du Conseil métropolitain. Et vous avez bien suivi que ce projet n'a pas été voté.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Qu'est-ce qu'on va retrouver de Ludovic Bourreau dans le futur programme de Oze? Qu'est-ce que vous avez amené? Qu'est-ce que vous avez dealé finalement? Parce que je suppose que si vous étiez probablement d'accord avec certaines de leurs mesures, vous avez aussi envie de militer pour certaines des autres.
Certains de nos confrères parlent déjà de vous à la 13e place ou je sais plus quoi sur la liste, je sais pas.
Combien vous dites?
Trois.
Non. Je sais pas.
Mais
qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Et pourquoi il parle de ça? Parce que je disais très bien.
Je sais pourquoi il parle de ça, c'est parce que s'ils sont battus, il siégera quand même à la différence.
Mais oui, je sais bien. Mais c'est vrai ou pas? C'est une réalité ou?
Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'alliance est faite sur des questions de programme, donc on va en parler, sur des questions de valeurs. Je serai une place particulière en effet. Je vous rappelle qu'en 2020, j'étais cinquième sur la liste d'Olivier Carré et fléché pour la culture à ce moment-là. J'ai presque envie de lui faire un clin d'œil à Olivier Carré, l'ancien maire. C'était une manière d'entrer dans les politiques assez singulière pour moi. C'est-à-dire que participer à travailler avec des gens qui sont d'une sensibilité un petit peu différente de la vôtre, je trouve que c'est très formateur. Voilà. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que j'assumais mon étiquette centriste, c'est en ça que je l'entends, c'est-à-dire cet équilibre permanent, cette écoute de l'autre, de considérer les opinions qui ne sont pas les siennes et d'accepter d'évoluer sur ces opinions. Voilà. C'est grosso modo, pour moi, rejeter les dogmes. Pour moi, le centrisme, c'est une méthode. On sera peut-être pas tous d'accord sur cela, mais en tous les cas, c'est comme ça que je me vois. Voilà.
Mais non, la question de Philippe, c'est quoi la plus-value de Ludovic Bourreau sur la liste Oze? Je crois, hein, Philippe, que c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Non, peut-être la culture, parce que ça fait partie de mon passé professionnel et puis de ce travail dans tout ce mandat. Alors je vous fais quand même une petite révélation, puisque maintenant on peut le dire.
Mais, allons-y.
Mais j'ai participé à toutes les réunions de travail de haut sur la culture durant toutes ces années. Voilà. Ça, c'est l'ouverture.
Il y avait déjà de l'ADN Ludovic Bourreau dans Oze.
Donc voilà, et c'était à l'époque une volonté de s'ouvrir à une autre association et de participer à ce travail collectif. Donc si vous voulez, le programme culturel de Oze, j'ai participé à ces réunions de réflexion. Et donc effectivement, j'y adhère et puis j'apporte aujourd'hui quelques propositions complémentaires. On ne pourra peut-être pas tout détailler aujourd'hui, mais évidemment... Une attention particulière aux arts plastiques et aux artistes locaux dans la détection des artistes, dans leur formation, la création d'un écosystème, leur valorisation.
Et il y en a déjà qui existe, l'écosystème de ces artistes-là.
Mais bien sûr.
Vous connaissez à Orléans.
Bien sûr. Oui, évidemment. Et puis, une grande proposition que nous avons, sur laquelle nous avons communiqué il y a quelques jours à peine, ce week-end, la création d'une cité sur le numérique et les jeux vidéo. Donc un équipement majeur qui se veut de rayonnement international.
Tiens, voilà. Vous créez le nouveau clair-obscur
Expédition
3. Ça recoupe les propositions de la liste. C'est plus Orléans maintenant, c'est rassemblé Orléans avec Baptiste Chaput.
Ils ont déjà changé de nom.
Oui. Ça fait quelques semaines. Mais ce matin, Baptiste Chaput présentait les principaux points du programme. J'y étais, on va l'écouter. Et il propose également ça, une cité du numérique à l'Argonne, je crois, oui. Dans l'ancien collège Rostand.
Alors
il a piqué chez vous donc hein.
Qui a déposé le brevet. Oui.
Je me permettrai pas de dire ça. Je peux juste acquiescer à cette formidable idée puisque nous l'apportons également. Oui. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que ce lieu, il doit être pensé par l'écosystème de la création numérique et des acteurs du jeu vidéo, que ce soit dans la formation ou pas. Et donc, en fait, on va arriver avec une commande publique, une commande politique, et ce sera aux acteurs de penser ce lieu dans le détail. Et à partir de là, on pourra déterminer où le lieu le plus adapté. Il faut arriver avec cette souplesse de dire que peut-être que lorsque la copie collective sera fournie, on déterminera un lieu le plus adapté.
En fait, vous voulez éviter l'écueil de la vinaigrerie où on a essayé d'utiliser un bâtiment pour en faire un élément culturel et que ça n'a jamais matché, quoi, finalement.
La vinaigrerie des Sceaux est en effet fléchée pour une possibilité parmi d'autres. Et de toutes les manières, il faudra en faire quelque chose. Ça a été abandonné encore une fois alors qu'il y avait un projet qui était écrit en 2019, qui a été stoppé, arrêté, pour lequel des indemnités ont été payées. C'était le choix du maire actuel. Et donc, il faudra en faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Je compléterai également sur la stratégie de rayonnement à l'international par le jeu et la création numérique.
Parce que
nous comptons faire un festival de 2 mois chaque été en lien avec cet équipement. C'est-à-dire que la ville rayonnera sur le jeu dans tous ses états sur un temps estival. Donc ce sera pour les familles orléanaises qui ne partent pas en vacances. Ce sera pour les touristes et ceux qui viennent de tous les âges, qui s'intéressent au sujet de du jeu vidéo et de la création.
Et, voilà. et Orléans est une ville du numérique, il faut le rappeler. Nous on le sait ici à Radio Campus, mais dites-nous, oui, évidemment. Orléans est une ville...
Il y a les bases d'un écosystème.
Talents. Il y a quelques talents.
Il y a des talents, il y a les bases d'un écosystème, notamment sur la formation. Voilà, il y a 2 écoles, les SAD et CODA qui peuvent être mises à contribution. Parmi d'autres, il y a tout un écosystème du jeu. Il y a le e-sport, n'oublions pas le e-sport, qui est une dimension à la fois de penser notre société et à la fois une dimension la plus populaire qui soit. Il faut que ce lieu ait pour clé d'entrée la dimension populaire, l'accueil chaleureux, le lieu de vie. C'est quelque chose qui manque terriblement à nos équipements culturels, qui parfois date un peu. On pourra y revenir éventuellement, mais il y aura beaucoup, beaucoup d'investissements à faire pour rénover des équipements culturels. Il y en a notamment un, la médiathèque, parmi d'autres, avec une rénovation quasi totale à faire. On ne peut pas tolérer aujourd'hui, en 2025, au moment où on a acté du réchauffement climatique, que ces médiathèques soient des fournaises en plein été. Ça, c'est pas possible.
C'est absolument vrai. Thomas ?
Pour revenir sur cette question du jeu vidéo et du numérique, pourquoi particulièrement axé sur ce choix ? On sent bien le vent en poupe du jeu vidéo actuellement, mais pourquoi particulièrement se dire Orléans est une bonne place pour pouvoir accueillir cette forme d'expression artistique ?
Je vais vous faire une réponse technique et politique, puisque Hassan en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est précisément ce que je m'apprête à vous dire. C'est identifier dans le tissu local ce qui est en train de pousser, en train d'émerger. Et pour moi, le rôle du politique, c'est d'avoir ce regard à l'instant T, de savoir ce qui est en train d'émerger naturellement dans un territoire, et d'arriver avec son arrosoir, et de le faire pousser, et de le faire grandir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer à l'ESSAD, via des formations. C'est ce qui est en train de se passer sur le festival Matricule Bis, 3e édition, qui a été repris par l'ESSAD le week-end dernier. Il se passe quelque chose. Et donc, si on est dans la ville, qu'on a les yeux grands ouverts, normalement, on prend des décisions adaptées et j'espère intelligentes.
Les ZAD, pour les gens qui nous écoutent très très loin, parce qu'on est écouté dans le monde entier, vous le saviez ou pas ?
Oui,
non mais vraiment, je vous le dis.
Radio numéro 1 dans le monde.
Je vous le dis, les ZAD, c'est l'école supérieure d'art et design d'Orléans.
En tout cas, on connaissait Ludovic Bourreau, le cultureux, maintenant on connaît Ludovic, le jardinier, qui l'arrose.
Quelque part, on parle de culture aussi, oui, forcément.
C'était peut-être un peu trop poétique, mais c'est arrosé avec quand même de l'argent, enfin beaucoup d'investissement, pour être très clair.
Mais un retour sur investissement, justement, sur le jeu vidéo aussi, quand on voit justement les succès de Clair Obscur Expédition 33, mais aussi d'autres jeux vidéo qui ont pu... Gotti, Game of the Year, c'est les Oscars du jeu vidéo.
Je te crois sans parole.
Ouais. On est perdu avec Philippe. Vous avez perdu.
Non, mais il y a la concurrence. Évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas la seule ville.
Moi, depuis Ping et Pong, j'ai arrêté.
Il y a Montpellier. On sait très bien que c'est Montpellier en fait qui est notamment au cœur de cette création du jeu vidéo. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même de la concurrence aussi, peut-être d'autres métropoles qui auraient pour envie aussi de soutenir justement l'industrie du jeu vidéo également ?
Non. Le benchmark ne dit pas qu'il y a ce point de concurrence. Ça dit justement.
Le benchmark. Ludovic Bourreau. Expliquez-nous le concept du benchmark.
On va dire le...
Je vous rappelle qu'on est quand même dans une radio étudiante, que chacun doit pouvoir continuer à faire valoriser son vocabulaire, surtout quand il est anglophone.
Non.
Une étude de marché, quoi, en gros.
Oui, exactement. Merci de me rappeler ça. Alors, ce que je retiens, c'est qu'on a quand même un spécialiste autour de la table qu'on pourra convier aux futures réunions. Et je rappelle d'ailleurs, qu'il faut entendre quand on est élu que c'est les expertises qu'il faut convier autour de la table et leur confier les décisions.
Oui.
Voilà.
Bah oui, très bien.
Oui, parce qu'on est dans le domaine culturel là pour l'instant.
Oui,
tant qu'on parle de culture, peut-être que.
Et justement, je voulais. On reviendra tout à l'heure sur les mailles. Je voulais qu'on en dise un mot. Ça fait partie d'un des combats que vous avez mené au sein du conseil municipal contre l'actuel maire. Mais il y a un autre combat, c'est celui du 108. On en parle beaucoup dans cette radio parce qu'on y est présent, hein, au 108, Victor.
Oui, on fait les apérodieux là-bas tous les derniers vendredis du mois, tous les deux mois.
Ouais, c'est ça, donc c'est pas tous les mois.
C'est tous les deux mois.
Il faut que les auditeurs et auditrices comprennent.
Allez sur les réseaux sociaux pour trouver la bonne date.
On faisait avant tous les mois, mais c'était un peu compliqué. On était très fatigués. Oui.
Mais du coup, c'est des événements culturels alternatifs où globalement on fait venir des artistes locaux, on fait du DJ set, on fait des émissions de radio, on tient un bar, c'est super sympa. Il y a une très très bonne ambiance et malgré tout, le problème actuellement, c'est que le 108 est menacé à cause d'une diminution des subventions municipales. Quelle est votre position sur ce dossier-là, du coup, Ludovic ?
Elle était publique, hein ? Je suis intervenu en conseil municipal, j'ai envoyé des communiqués de presse, j'ai fait des publications.
Redis-le parce que nous on n'était pas au conseil municipal, c'est trop long, c'est trop chiant. Les comptes rendus on les lit pas.
Ah mais Lucie Hassan il passe des heures à regarder ça.
Ah bah oui, je m'informe.
Parce qu'il ne se fait pas repérer quand il s'endort.
C'est ça, je m'informe et je confirme que j'ai regardé ce conseil municipal, vous avez parlé des subventions au conseil municipal du 108 et que vous êtes intervenu en précisant l'importance de ce lieu qui n'est pas encore un tiers lieu mais un lieu intermédiaire et que l'adjoint à la culture et le maire d'Orléans ont refusé de vous suivre.
Oui, globalement, le 108, c'est... Alors, je suis un riverain, moi, le 108, c'est à 100 mètres de chez moi, donc je connais très bien depuis toutes ces années. Il y a le vrai sujet. La plupart des villes en France consacrent 10 à 11% de leur budget global à la culture. Mmh. 200 millions de budget Orléans, 11%. On arrive à 22 millions minimum hors investissement. Si je vous dis ça, c'est qu'en fait, la subvention consacrée au 108 est de 85 000 euros.
Tout à fait.
Voilà. Donc on a réduit de 5 000 cette année. Il y a quelques années, on était encore à 100 000. Donc on parle d'économie de 15 000 euros. Je viens de vous annoncer des chiffres qui sont bien plus conséquents. Donc il s'agit de choix politiques que la majorité municipale de Serge Grouard doit assumer. Il n'était pas contraint à ce point de baisser le budget du 108 qui aujourd'hui le menace de survie. Il n'était pas obligé. Il pouvait faire autrement. Le mois dernier, nous avons fait une intervention conjointe avec ma collègue Guylaine Kounowski, avec qui je travaille très bien au conseil et également en commission culture. Nous avons voté contre une subvention à hauteur de 10 000 euros pour un spectacle autour de Jeanne d'Arc porté par quelqu'un qui annonçait qu'il comptait utiliser la culture pour évangéliser. Nous avons dit que ça nous posait un petit problème. Et nous n'avons pas eu réponse à nos questions. Et donc c'est pour cela que nous avons voté contre cette subvention. Il y a des choix qui sont faits, vous voyez. Ces 10 000 euros-là, on aurait pu les mettre au 108. Qui, eux, à ma connaissance, n'évangélisent pas avec un projet culturel. Mmh. Voilà.
Une autre question, Victor, là-dessus?
Non.
Avec l'évangélisation, il nous a mis tous KO.
Oui.
Là, c'était quand même l'anecdote, ultime.
Pour suivre par rapport au 108, comment pouvez-vous qualifier pour vous l'importance d'un lieu comme celui-ci dans une métropole comme Orléans? D'aucuns diraient que c'est un repère d'affreux gauchos, etc. Je ne sais.
Et même,
on en discutait aussi un petit peu hors antenne, on se dit qu'un lieu comme celui-ci peut aussi quand même faire parfois bouger les choses, même si on n'est pas forcément d'accord avec cela, mais ça peut remuer un peu quelques idées, donner quelques idées en matière culturelle, etc., d'éducation populaire aussi. Vous, comment est-ce que vous la qualifieriez, cette importance d'un lieu comme le 108
dans un lieu au centre-ville, un lieu comme celui-ci.
Dans le centre-ville.
Dans le centre-ville.
Très proche de la rue de Bourgogne, effectivement. Au croisement, la rue de Bourgogne, voilà. Mmh. Au croisement avec, effectivement.
C'est un lieu important, c'est une, voilà, un tiers-lieu, un tiers-lieu plus qu'une friche culturelle. Voilà, c'est un sujet spécifique, le tiers-lieu. En gros, c'est une boîte dans laquelle on peut mettre un peu tout ce qu'on veut.
Ancienne chocolaterie.
Avec des méthodes particulières.
Des outils, des supports, l'aide à la, voilà, la création.
Enfin, c'est, absolument. C'est, donc, dans le 108, il y a un certain nombre d'associations qui ont leur bureau, qui y travaillent. Mais il y a aussi des événements publics, voilà, souvent d'accès gratuit ou peu cher. C'est aussi un lieu où on peut défendre, je dis, voilà, ceux qui y travaillent défendent des projets de société, des sujets de société, une vision de la vie. Donc c'est un lieu phare important, voilà, que nous devons soutenir. Et ce qui n'interdit pas d'ailleurs le conseil d'administration et sa direction de penser à l'avenir du 108 et de voir dans quelle direction ils peuvent l'emmener. Donc ça, c'est des discussions qu'il faut avoir entre la collectivité et le 108. C'est bien naturel. Il peut y avoir parfois des divergences de point de vue, mais je crois qu'elles ne sont pas indépassables. Je crois que, en tout état de cause, il faut maintenir un niveau de subvention qui leur permette de survivre. Et mieux que ça, de retrouver l'activité sereine qu'ils avaient auparavant. C'est-à-dire que là, ils sont plus en mesure d'apporter, voilà, tout ce qu'on pouvait attendre en termes de services, dire même de services publics. Donc, il n'est pas compliqué de revenir à un financement tel qu'il était dans les années antérieures, en rajoutant 15 000 euros, voilà, tout simplement.
Et nous adressons un amical et fraternel bonjour au régisseur qui a été licencié il y a quelques jours, notre grand Samy Samuel Pastel.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Nous allons maintenant parler des mailles. Vous étiez venu en parler il y a quelques temps. D'ailleurs, c'est une question que Philippe pose souvent aux invités, mais il n'a pas encore posé. Qui concerne la métropole. Vous n'êtes pas tête de liste, mais si jamais Oze gagne les élections, que conseilleriez-vous au groupe de prendre la métropole également, d'être... Parce que les mailles concernent la métropole, c'est pour ça que je vous posais la question, mais répondez déjà à celle-ci. Est-ce qu'il faut être maire et président de métropole? C'est une question qui se pose, une vraie question.
Pas nécessairement. Je crois que le plus important, au fond, c'est de mettre en place une méthode que moi, je n'ai pas encore connue en tant qu'élu. Voilà, ça fait 6 ans que je suis élu.
Mais vous êtes à la métropole également?
À la métropole, voilà, absolument. Ce que j'ai vu, c'est une gouvernance autoritaire d'un seul homme, voilà.
Mais ça date d'il n'y a pas longtemps, enfin, avant il y avait Olivier Carré, c'était... Non, c'était mieux.
Visiblement, les décisions étaient peut-être plus collégiales.
D'accord.
Voilà, pour ce qui est du... Pourquoi je vous dis ça? Parce que le sujet des mailles n'a pas été concerté.
Oui, mais
on, a vu une copie toute faite arriver en conseil et on nous a demandé de voter comme un seul homme. Donc ça, c'est pas possible.
Mais comment c'est possible ça? J'ai regardé les débats, tous ces maires de l'agglomération qui nous disent on découvre. Est-ce que il y a quand même des réunions de maires? Enfin, il me semble.
Mais ça,
en
ça,
amont des
ça veut conseils. Dire précis, ça veut dire précisément, et je l'avais dit en conseil, comme en communiqué, ça veut dire que même les maires de la métropole ne sont pas consultés.
Mais il n'y avait pas de réunion préparatoire, donc.
Sérieusement.
Il y avait pas de
mais c'est exactement ce qui s'est passé. La copie est arrivée toute faite et les maires ont dû se prononcer à partir de cette copie. Donc il faut simplement vous parler d'un exécutif. Moi, je vous parle de transversalité de la décision et de la discussion. C'est ça qu'il faut faire. On dit que c'est un projet métropolitain, un financement métropolitain. Eh bien, on doit mettre tous les maires autour de la table et parler d'abord des flux de circulation. Ça n'a jamais été mis sur la table. On a fait un projet de ripollinage. Voilà, ça aurait été plus joli, c'est indéniable, hein. Pour 80 millions, ça peut, mais on n'aurait pas traité le sujet de la circulation. Et puis, pire que ça, je vous l'avais déjà dit à l'époque, on supprime ce parvis piéton devant Place d'Arc pour faire passer 4 voies de circulation. Et bien ça, c'est les années 80. Oui. Et nous, ce qu'on veut, c'est rentrer dans le 21e siècle. Ça n'a rien à voir.
Mais le maire d'Orléans et président de la métropole présentait ce projet comme un projet structurant de la métropole. Vous n'y croyez pas?
Je ne sais pas ce que ça structure.
Bon, très bien.
A priori, ça avait peut-être la volonté à structurer quelque chose, on n'a pas compris finalement quoi.
Est-ce qu'on reste sur les mailles?
Oui,
ou, est-ce que je...
encore une question sur les mailles si tu...
Ouais, moi j'avais une autre question en fait, donc je laisse peut-être par rapport aux mailles, parce que moi j'avais une autre question en lien avec aussi l'urbanisme.
Oui, bah si, je vais faire
attention sur l'urbanisme.
Est-ce que vous faites autre chose si vous êtes élu avec Oze, donc est-ce que vous faites autre chose pour... parce qu'il y a un vrai problème hein, de circulation, et puis cette place d'Arc qui est comme une verrue, et ça, c'est l'expression du maire d'Orléans que je reprends. La place d'Arc, elle n'est pas très très jolie, il faut dire la vérité.
Ouais. Bah, elle n'est pas très végétalisée, hein, notamment.
En tout cas, mais est-ce que vous faites autre chose?
On a toujours dit tous qu'on était d'accord sur le constat. Sur le constat qu'il fallait changer les choses. C'est-à-dire que oui, Place d'Arc, c'est pas beau. Mmh. Oui, cette passerelle, c'est pas beau. Mmh. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Et si c'est tout détruire pour refaire passer des voies de circulation parmi les piétons, ça n'est pas possible. Mmh. Il y avait d'autres possibilités, notamment enfouir la circulation en détournant une canalisation. Voilà, les choses étaient déjà préétablies depuis un certain temps, tout le monde le sait. Ça n'a pas été l'option prise par le président de la métropole, puisqu'il décide seul. Et voilà, donc effectivement, il faut revoir ce parvis de Place d'Arc et Place d'Arc à l'avenir, mais au travers d'une réflexion collégiale collective. Et puis en mettant le plan de circulation métropolitain au cœur des réflexions avec les maires, voilà.
En réfléchissant à la place du vélo, parce que c'est vélo, voilà.
Absolument.
Et des piétons, hein, si je peux me permettre aussi ce commentaire. On parle beaucoup des quatre roues, des deux roues, mais
c'est quoi ça?
Il y a des gens avec deux pattes hein, qui circulent encore en ville.
Les gens marchent, mais ils n'ont pas de voiture.
Ce que nous portons globalement en commun entre Vivement Orléans et Oze, c'est cette volonté de protéger les plus fragiles. C'est-à-dire qu'une ville, c'est pour nous tous en fait. C'est une fois qu'on s'est garé, une fois qu'on est sorti du bus, du tram, de ce que vous voulez, la ville, elle est pour les humains. Faut quand même être très clair, la ville est pour les humains et essentiellement les piétons. Et parmi les piétons, les personnes à mobilité réduite, ceux qui ont des problèmes à se déplacer, celles et ceux qui sont en fauteuil. Et donc c'est protéger les plus fragiles. Et donc c'est d'abord considérer le passage des piétons, ensuite les mobilités douces pour pouvoir permettre de les développer. Et puis en dernier lieu, le trafic résiduel motorisé qui est celui de la voiture. Et avant cela, favoriser évidemment les transports en commun.
En parlant de protéger les plus fragiles, avec la restructuration de la rue des Carmes et notamment le projet Madeleine, est-ce que il n'y a pas un risque qui se met peut-être déjà en place depuis quelques années de gentrification du centre-ville d'Orléans? Comment fait-on pour permettre à des personnes précarisées ou en tout cas des personnes qui n'ont pas forcément un très très haut revenu de pouvoir quand même continuer à habiter à Orléans et ainsi maintenir une mixité sociale et ne pas écarter ces populations à l'extérieur? Est-ce que vous avez réfléchi à cela?
Il y a un vrai travail sur l'habitat. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas le spécialiste de l'habitat. Mais il y a
effectivement.
Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Mais moi, pour revenir sur le quartier des Carmes, ce qui m'a quand même le plus interpellé dans ce mandat, c'est toutes ces boutiques qu'on a vues fermer pendant toutes ces années. C'est la plus grande boutique au niveau de la Fourche avant d'arriver sur la future fac, qui est encore totalement vide. Enfin, je veux dire, quelle est la stratégie autour de l'implantation des commerces? Quelle est cette stratégie en place pour que ces commerces soient encore vides au bout de 6 ans? Enfin, c'est ça qui m'interpelle. Par ailleurs, on sait qu'il y a un certain nombre de logements insalubres qui ont été rénovés fort heureusement dans le quartier des Carmes. Et alors, c'est là, effectivement, vous avez raison d'aborder le sujet de la gentrification. Mais en même temps, dire quand même que ces logements insalubres, c'est quand même la priorité de les rénover. Il n'est pas tolérable, c'est une question de solidarité également, il n'est pas tolérable qu'il y ait des gens qui vivent dans des logements insalubres. Donc ça, il faut le traiter en priorité, effectivement. Bah, la question de la gentrification, c'est aussi la question de la gestion de l'habitat, de qu'est-ce qu'on construit, à quel endroit, maîtriser le prix du foncier.
On entend parler d'Orléans, ville de court séjour pour notamment les Parisiens ou Parisiennes, etc. Est-ce qu'il y a un risque aussi du développement de l'Airbnb, notamment?
Ça, c'est un vrai problème aussi.
Ça, c'est une vraie question que j'ai abordée il y a 3 ans en commission déjà. Mmh. J'avais dit, est-ce que vous êtes rendu compte que dans le quartier historique, toutes ces boîtes à clés, vous voyez, ces fameuses boîtes à clés pour accéder aux appartements Airbnb pullule. On m'avait dit il y a 3 ans, monsieur Bourreau, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bah, je me disais, très bien, on en reparlera l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, j'en ai reparlé. Ah bon, vous pensez? Vous pensez vraiment qu'il y a un sujet Airbnb? Je dis oui, je pense. Je vois des boîtes à clés partout. Je vois des personnes avec des valises partout. Et on m'a dit, bon, je crois qu'il n'y a pas de sujet. Encore un an plus tard, je dis, vous vous rappelez de mon sujet Airbnb? Là, on dit quoi maintenant? Oui, oui, ça commence à arriver, en effet, Monsieur Bourreau. Et ben voilà, donc parfois on se questionne sur son rôle d'élu d'opposition, on se sent un peu seul quand on dit les choses, quand on alerte et qu'on n'est pas écouté.
Mais ce quartier dont on parle, le quartier des Carmes, il y aura les étudiants bientôt, ça va être bien, non?
Bah, je trouve, oui.
Ok. Bah, non, mais voilà.
C'est un projet fondamental pour notre... Vous savez, moi, j'ai étudié notamment, avant de partir à Paris, j'ai étudié ici même. Voilà, je venais manger ici, j'étais à la fac de sciences, voilà, jusqu'au
restaurant universitaire qui est fermé d'ailleurs.
J'ai connu tous ces.
Grâce à la politique de droite, tu vois. Pardon. La partie de l'UNEF ou Sud. Mais une dernière question peut-être avant de passer à la législative partielle.
À toi, à moi, non,
à toi.
Moi, ouais. Bah, tant qu'on est sur le logement, le logement étudiant, qu'est-ce qu'on en fait aussi? Parce qu'on a fait un tour, hein, toi et moi, Hassan, au guichet de l'aide, notamment, en début d'année universitaire. Il y avait quand même 260 étudiants sur liste d'attente du CROUS pour des logements. Certains dont on nous disait qu'ils dormaient à la rue. Parlait de quelques dizaines de jeunes à ce moment. Et on nous explique notamment, lorsqu'on interroge certaines personnes, qu'il manque clairement de foncier abordable pour ces étudiants et étudiantes, forcément en précarité financière. Qu'est-ce qu'on fait pour eux et pour elles?
Je regrette ce constat, d'autant plus qu'en début de mandat à la métropole, lorsqu'on voyait ce projet arriver, même s'il est en retard, on peut le dire, en retard de 3 ans, ça aurait pu avoir pour conséquence tout de même de nous laisser un peu de temps pour construire des logements ou d'en rénover. Vous faites un constat terrible sur lequel il faut agir en effet. Moi, je constate qu'aucune anticipation n'a été faite de ce point de vue-là, malgré les années supplémentaires qu'il a fallu pour faire émerger cette faculté en centre-ville, qui sera un élément fondamental qui va changer la phase de notre ville, qui sera une ville bien plus dynamique. Et il faudra en effet penser cette ville avec cette jeunesse qui va arriver massivement, penser avec elle, pour elle, en équilibre avec le reste de la population.
Ludovic Bourreau de Vivement Orléans, qui a rallié OSE, Orléans solidaire et écologique, est notre invité. Vous restez avec nous. Les deux sujets prochains vont peut-être amener des réactions chez vous. Je rappelle, je ne l'avais pas encore dit. Le projet pour les municipales d'Orléans solidaire et écologique sera présenté samedi prochain à 15h au local. Vous avez l'info ou je vous la donne?
Je vous fais confiance.
Bon, voilà. C'est... J'ai eu un message de votre président, donc voilà.
Voilà, s'il a envoyé un message, rappelle-nous la date et l'horaire.
On peut confirmer. Non, mais c'est samedi 31 janvier à 15h au local.
Absolument, rue de Bourgogne.
Rue de Bourgogne.
Il nous montre son smartphone.
Voilà, ouais, j'ai un smartphone, t'as vu le gars, il est moderne. À bâton rompu la suite.
Tu reviens à bâton rompu. Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Pour parler maintenant du deuxième tour de cette heure législative partielle. Thomas.
Ouais, effectivement. Et le premier tour avait poussé le suspense jusqu'au bout de la soirée. Cette seconde phase, elle, n'a réservé aucune surprise. Stéphanie Rist, candidate Renaissance, issue de la majorité présidentielle, a été réélue ce dimanche 25 janvier au cours de cette législative partielle de la première circonscription du Loiret. Elle devance sa concurrente du Rassemblement National, Tiffany Rabeau, 62,1% pour la première et 37,9% pour la seconde. Une baisse de plus de 5 points, cela dit, pour Stéphanie Rist par rapport au second tour de 2024. À cette époque, la socialiste Guylaine Kounowski s'était retirée d'elle-même lors d'une triangulaire, alors qu'elle était deuxième au premier tour et elle avait appelé à voter pour sa concurrente de droite libérale. Actuelle ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, elle jouait son avenir politique au cours de ce scrutin. Stéphanie Rist avait annoncé qu'elle démissionnerait de son poste de l'avenue du Ken, ce qui lui aurait fait tout perdre en cas de défaite. Et même si ce deuxième tour n'a offert aucun rebondissement, eh bien c'est une Stéphanie Rist souriante que nous avons retrouvée dans les couloirs de la préfecture.
Je suis ravie d'avoir gagné cette élection dans un contexte pas facile. Et donc oui, je suis ravie. Je suis ravie que Marie-Philippe puisse être députée, arriver bientôt à l'Assemblée et de pouvoir continuer à être ministre de la Santé et à servir nos concitoyens, et particulièrement sur ce territoire et cette circonscription que j'aime.
L'écart se réduit avec le Rassemblement National sur la circonscription tournée?
Alors on ne peut pas comparer. Il y a 70% d'une part d'abstention ou de participation. Vous ferez vos analyses. Moi, ce que je constate, c'est que dans dans un contexte encore une fois compliqué, je gagne nettement devant la candidate du Rassemblement National. Je constate que les gens m'ont fait confiance encore une fois et je voudrais vraiment les remercier. Ils se sont déplacés et vraiment merci à eux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je continuerai avec honnêteté, sincérité et on travaille de la même façon avec Marie-Philippe Lubet, avec honnêteté, sincérité, autour des projets, pour les gens. C'est ce que je fais depuis 8 ans et ce que qu'on continuera ensemble.
On voit qu'il y a 5 communes rurales où le RN est en tête. Ça montre aussi cet enracinement du Rassemblement National dans la ruralité.
Oui, en 2024, il y avait plus de communes rurales dans ma circonscription où le RN était en tête, donc je considère que j'ai plutôt avancé dans ces communes rurales. Merci.
Juste un mot sur le calendrier. Est-ce que vous savez quand vous allez démissionner, puisque vous avez un mois pour le faire, et donc quand Mme Lubet va vous remplacer?
Nous allons regarder ça et très rapidement que Marie-Philippe puisse arriver très vite à l'Assemblée, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de travail au ministère.
C'est moi où elle a dit 3 fois merci?
Oui, trois fois seulement.
Les journalistes.
Non, c'était sa chargée de communication qui était présente et qui était assez pressante.
Merci.
Bah, vous savez, hein, madame est ministre, hein, donc maintenant, c'est un peu compliqué. Les emplois du temps sont serrés. Ouais. Elle a évoqué notamment Marie-Philippe Lubet, donc, dont je vais parler tout à l'heure. D'abord, donc, un petit mot sur cette très forte abstention premier tour, effectivement. 71,4%. Et ce scrutin au second tour n'aura guère plus déplacé les foules. 69,64% des inscrits ne se sont ainsi pas déplacés pour choisir leur député ce 25 janvier. Et c'était attendu, donc Stéphanie Rist a fortement creusé l'écart dans les communes les plus densément peuplées de la circonscription. À Saint-Privé, Saint-Mémin et à Beaugency, la députée sortante l'emporte avec plus de 58% des suffrages et avec plus de 62% à Saint-Jean-le-Blanc. Elle s'impose aussi largement à Olivet à plus de 69%, commune majeure de la métropole qui lui avait d'abord déjà accordé plus de 41% des suffrages la semaine dernière. De son côté, Tiffany Rabault, donc du Rassemblement National, n'a acquis la majorité que dans quelques villages de la circonscription, Villorso, Messas, Dry et Cravant, où elle affiche plus de 63% dans ce dernier. La seule commune dépassant les 2000 habitants dans laquelle elle l'emporte, c'est Lailly-en-Val avec 51,88%. Elle préfère toutefois rappeler sa progression entre 2024 et 2026.
Eh bien, moi, je suis extrêmement satisfaite. On a une progression qui se maintient. On a un ancrage local manifeste dans cette circonscription. Parmi les chiffres qui sont encourageants, bien sûr, les chiffres globaux de la circonscription, on prend plus de 6 points. Sur Orléans, on prend plus de 5 points. Et sur Saint-Denis-en-Val, où la vraie candidate, Marie-Philippe Lubet, était maire, on prend plus de 11 points. Donc c'est vraiment très encourageant pour la suite, notamment pour les élections municipales d'Orléans, où le scénario qui se dessine est le même que celui que j'ai affronté sur cette circonscription, avec une gauche pour le moment divisée et une alliance macroniste qui avance derrière Serge Grouard. Ce que montre cette élection, c'est que quand le peuple vote, le peuple gagne, et quand on fait un travail de terrain avec les militants, les électeurs répondent, et je remercie d'ailleurs tous les militants qui ont fait un travail quotidien remarquable. Je remercie Valentin Blély, mon suppléant, qui a vraiment incarné cet ancrage local. Il est conseiller municipal à Saint-Jean-le-Blanc, il représente l'UDER, il m'a beaucoup aidé. Et puis je remercie aussi les électeurs qui se sont déplacés aux urnes, qui se sont déplacés plus nombreux pour le Rassemblement National, et ça c'est vraiment une grande victoire pour nous.
C'est à Orléans, vous faites votre moins bon score. C'est pas un peu paradoxal de se présenter là où vous faites votre moins bon score pour les municipales?
Au contraire, moi je suis challenger et on augmente nos scores à Orléans. Donc il faut savoir que sur les bureaux qui sont dans la circonscription Orléans-la-Source, Orléans-Saint-Marceau, ça nous permet d'évaluer notre base. Mais sur les autres bureaux de Orléans, on verra ce qui se passe. Tout est ouvert, tout est possible.
Vous parliez juste tout à l'heure du fait que le peuple s'était déplacé. Mais on a une abstention quand même qui est tout aussi importante presque sur ce second tour. Quel enseignement vous en tirez?
Bah c'est sur une élection partielle, on sait que l'abstention nous est défavorable. Et en général, les chiffres montrent que sur une élection partielle où il y a beaucoup d'abstention, on perd des points et là on progresse. Donc là encore, c'est une très belle victoire.
C'est bien, tout le monde est content, tout le monde remercie tout le monde, c'est magnifique.
Et bam, ta question quand même, quoi.
Oui. Non, attends, oui, vous voulez parler?
Oui, on le remercie aussi, d'ailleurs, pour cette
Salut du reportage. Effectivement.
Et alors, malgré la victoire de Stéphanie Rist, ce n'est pas cette dernière donc qui siégera sur les bancs de l'Assemblée nationale, du moins pour le moment. Suivez mon regard, on n'est jamais à l'abri d'une deuxième dissolution découlant de la tempête de Jupiter. Nommée ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, le 12 octobre dernier, Stéphanie Rist laissera sa place à sa suppléante, Marie-Philippe Lubé, maire de Saint-Denis-en-Val. Dans cette commune, le score de Stéphanie Rist était de 55,31%, alors ce qui n'est pas mal, mais clairement en dessous de son score global dans la circonscription, et surtout en 2024, elle avait obtenu 10 points de plus au second tour dans cette même commune. Alors est-ce que c'est l'illustration d'un certain agacement des administrés de Marie-Philippe Lubé ? En mai 2025, elle avait indiqué à la presse locale, notamment La République du Centre, qu'elle ne se représenterait pas pour les prochaines municipales. À cette époque, elle n'avait d'ailleurs pas envisagé de devenir un jour députée au moment de quitter son siège de maire. Et ce ne sont pas ses propos prononcés à la sortie de ces législatives partielles qui ont forcément rassuré les électeurs quant à sa place, la place qu'elle occupera à l'Assemblée nationale. Les journalistes lui ont notamment demandé quel dossier elle comptait porter.
Je peux peut-être pas vous répondre tout de suite. Je sais que je prendrai la succession de Stéphanie. Je travaillerai sur tous les dossiers. Moi, personnellement, c'est les dossiers qui touchent le territoire qui m'importent. Mais je serai dans la continuité de Stéphanie.
Le fait de pouvoir rentrer à l'Assemblée nationale, pour vous, ça représente quoi ?
Le fait de pouvoir rentrer à l'Assemblée nationale, ça veut dire que je suis très contente déjà d'avoir eu la confiance des électeurs en même temps que Stéphanie. Et c'est un travail qui m'attend à l'Assemblée nationale. Et étant élue de proximité depuis plus de 30 ans, je pense que porter la voix à l'Assemblée nationale est très important.
C'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu pour vous
Non, ce n'était pas forcément prévu. Mais... Ça tombe bien au moment où j'arrête, effectivement, de pouvoir le faire.
Vous savez dans cette élection que l'identité de la suppléante avait une importance particulière. Est-ce que vous considérez que c'est aussi votre victoire aujourd'hui que les gens ont voté pour vous en connaissance de cause ?
Je pense qu'une partie de l'électorat, effectivement, m'a fait confiance en même temps que Stéphanie. Mais le vote, la tête de liste était quand même Stéphanie Rist.
C'est pas mon genre, hein, mais de dire du mal des gens, mais c'est assez hallucinant.
Je vous avoue que nous étions quelque peu circonspects devant l'hésitation de Marie-Philippe Lubé lorsque la question simple lui a été posée sur ce que représentait cette accession à l'Assemblée nationale pour elle. On se demande si elle est suffisamment prête et préparée pour ce poste de suppléante qu'elle a pris, je rappelle, au pied levé suite au désistement de Stéphane Chouin, l'ancien suppléant de Stéphanie Rist. Je vous laisse en juger autour de la table.
En même temps,
parce qu'on est quand même vache avec
Madame
l'adjointe. L'adjointe.
Oui.
L'ancienne maire de
Saint-Denis-en-Val. Oui.
On est quand même vache parce que effectivement, elle s'y attendait probablement pas il y a 3 mois en arrière. Bon, elle rend service là. Donc quand tu lui poses la question de savoir quel est le premier dossier sur lequel elle va se pencher à l'Assemblée nationale, ça c'est sûr qu'elle n'en sait rien. Je suis
pas
sûr
faux.
Stéphanie Rist, s'il n'y a pas son adjoint derrière,
c'est pas vraiment de sa faute. Hein, je suis d'accord, c'est peut-être pas vraiment de sa faute.
Elle est quand même censée incarner la représentation nationale.
Elle va incarner. Elle est à quelques heures de son élection. Elle va finalement l'incarner. Quand on voit la bande de branquignoles qui sont arrivées il y a 2 législatures à l'Assemblée nationale, je peux dire que j'étais beaucoup plus inquiet. C'était pas juste une question de suppléante de d'Orléans numéro 1. Mm-hmm. Non, il faut du temps pour se mettre quand même dans le rôle et elle fera pas pire que certains autres.
Laissons-lui le temps. Oui.
Ludovic Bourreau, une réaction peut-être sur cette réélection. Qui est le fait de Madame Rist, que vous connaissez un peu.
Ancienne colistière, quand même, il faut le rappeler. Elle était sur la liste d'Olivier Carrière en 2020.
Même si vous n'êtes pas encarté politiquement, vous n'étiez pas de son parti, mais vous la connaissez.
Absolument, nous sommes dans le même groupe municipal à la mairie d'Orléans. Alors, il y avait beaucoup de ravissement dans cet extrait, donc moi aussi je suis ravi que Stéphanie Rist soit ravie. Et puis par ailleurs...
Ah, ça on l'a entendu, on est d'accord.
Par ailleurs, pour être plus sérieux, je ne partage absolument aucune des valeurs du Rassemblement National, aucune. Et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là, essentiellement au sein de nos associations OSE et Vivement Orléans. Je suis vraiment préoccupé de la montée en puissance du Rassemblement National et donc je suis satisfait qu'aucun député Rassemblement National n'ait été élu ce week-end. Voilà, pour être très clair. Par ailleurs, Stéphanie Rist est députée macroniste de la première heure, et je note que sur la liste des municipales du maire actuel Serge Gourard, il y aura des macronistes.
Il y en aura. Vous êtes sûr.
Il y aura des macronistes. Bon. Et je me pose la question de la cohérence. Après un mandat où nous avons entendu monsieur le maire critiquer à longueur de temps le pouvoir central macroniste de lâcher les municipalités. Après toutes ces critiques, on le voit désormais s'allier à la Macronie. Donc je me pose la question...
Ludovic Bourreau, vous faites un espèce de parallèle entre le théâtre et le cinéma de la politique et la réelle politique.
Absolument. J'ai pas terminé.
Les sorties de Serge Gourard sont nombreuses, ouais, mais elles tiennent souvent sur une émotion de l'instant. Et
très rapidement, parce que nous avons un autre sujet. Très rapidement.
Et j'ai pas terminé.
Oui.
Par ailleurs, sa dérive droitière pose également la question de comment ces éléments macronistes qui ont lutté contre le Front National ce week-end vont adhérer à tout cela. Moi, globalement, ce que je pense, c'est que dans le cadre de ces élections municipales, on va arriver à un véritable choix de société. Mmh. Voilà. La droite, l'extrême droite, les conservateurs avec une dérive droitière, et je pense qu'il y aura pour les Orléanais un choix de société à faire avec une autre alternative.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
La campagne pour l'élection municipale, c'est bientôt, c'est dans quoi, de 15 jours, 3 semaines? Je sais plus. C'est en mars.
Oui, c'est en mars. Oui.
Et présentation ce matin du programme du collectif Rassemblé Orléans, anciennement Maintenant Orléans, conduit par...
Oui, le PS, quoi.
Baptiste Chapuis.
Pour que les gens comprennent de quoi on parle. Parce que...
Mais c'est un collectif...
Non,
mais
vivant Orléans, demain Orléans, après-demain Orléans, on adore Orléans.
Non, mais c'est un collectif...
C'est des appellations qui n'ont aucun sens pour la plupart d'entre nous. Enfin, bon, oui, voilà. Mais... Donc là, c'est l'union de la gauche,
oui,
sauf les filles, sauf les écolos. Donc ils sont union à eux tout seuls.
Mais c'est un collectif qui rassemble 13 mouvements et partis de gauche.
Et qui a reçu un soutien de poids avec l'arrivée de Yann Chaillou, l'ancien socialiste redevenu socialiste.
On en reparlera dans une prochaine émission. 155 propositions présentées ce matin, dont 10 mis plus particulièrement en avant. Rassembler Orléans avec une nouvelle méthode, dit Baptiste Chapuis.
Aujourd'hui, c'est le titre de notre liste, c'est Rassembler Orléans. Aujourd'hui, on a une ville qui a, et une équipe majoritaire qui a opposé les quartiers, stigmatisé des populations, oublié les acteurs économiques. Et donc nous, ce qu'on propose pour la prochaine mandature, c'est ça, c'est rassembler Orléans, c'est repenser la ville à hauteur d'enfant, avoir une nouvelle ambition économique, transformer nos mobilités, et rester à l'écoute et dans la concertation de l'ensemble de nos projets.
Parmi les principales propositions, la gratuité des transports en commun, progressivement, dit Baptiste Chapuis, d'abord le week-end. Il y a également la construction et la rénovation de logements sociaux et de logements étudiants, plus de places en crèche, la végétalisation de toutes les cours d'école, l'achat de fournitures scolaires pour les quelques 5000 écoliers orléanais. Toutes ces propositions sont chiffrées. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts, dit Baptiste Chapuis.
L'idée, c'est qu'il est original dans sa conception, c'est-à-dire qu'on a énormément concerté, rencontré beaucoup d'acteurs. Il est ambition dans sa volonté et il est crédible financièrement et crédible par l'équipe qui le porte. Sans augmentation d'impôts, avec une volonté d'avoir d'autres choix politiques que ceux qui ont été menés ces dernières années.
En matière culturelle, le programme prévoit la rénovation de lieux culturels, impact financier sur 3-4 ans avec les associations. Ce projet... Il y a un nouveau projet en tout cas, un projet, c'est la création d'une cité internationale Jeanne d'Arc, alliant patrimoine, culture et recherche au cœur de ville.
Aujourd'hui, on veut une cité internationale de Jeanne d'Arc. Orléans, c'est la ville de Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce qu'on renvoie aujourd'hui de Orléans, ville de Jeanne d'Arc? C'est une statue, une cathédrale... un lieu, une maison Jeanne d'Arc qui est complètement dévitalisée. Et aujourd'hui, nous, on repensait un lieu de culture, un lieu d'innovation, un lieu où on viendrait accueillir pendant en résidence d'artiste pendant un an, un artiste international qui viendrait réinterroger l'image de Jeanne d'Arc, qui viendrait présenter ses travaux pendant les fêtes de Jeanne d'Arc. C'est aussi un centre de recherche mondialement connu qui a besoin de mettre à disposition ses ressources à l'ensemble des chercheurs, historiens, historiennes. C'est des acteurs culturels locaux qui pourraient créer autour de la figure de Jeanne d'Arc. En fait, l'idée, c'est de se réinvestir Jeanne d'Arc en dehors des fêtes de Jeanne d'Arc et qu'on retrouve cette fierté, cette icône de Jeanne d'Arc de manière vraiment partagée par l'ensemble des Orléanais et des Orléanais et pas que uniquement le 8 mai.
Baptiste Chapuis a également annoncé la volonté de sa liste de la création d'une cité numérique dans l'ancien collège Jean Rostand, un peu comme vous, à Oze, Ludovic Bourreau. Et il faut rappeler, ce collège Jean Rostand a déjà accueilli des événements culturels comme l'édition 2023 du Loire Art Show. Nous en parlerons avec lui dans une prochaine émission, parce que là on n'a plus vraiment le temps. Et le programme de Orléans Maintenant sera diffusé, ou Rassemblé Orléans, sera distribué aux Orléanais à partir de demain.
On a encore le temps de dire un mot ?
Mais
un mot. Alors moi, c'est juste un truc qui m'énerve, c'est sans augmenter les impôts. De toute façon, les impôts, ils ne peuvent pas les augmenter. Le dernier levier qui leur reste, c'est les impôts fonciers. Et puis les impôts, ils augmentent de toute façon à chaque fois, puisqu'à l'Assemblée nationale, on révise les bases, et donc mécaniquement, les impôts augmentent. Voilà, c'était juste pour faire cette petite précision, que les autres élus arrêtent de nous matraquer avec leur histoire, on n'augmentera pas les impôts, ils ne peuvent pas de toute façon.
Et un deuxième mot, Ludovic Bourreau.
Oui, je veux bien pour terminer.
Oui,
je voudrais réagir au mot du leader du Parti Socialiste, Baptiste Chapuis, qui a annoncé la ville à hauteur d'enfants.
Oui, bien sûr.
J'ai plus la volonté, nous avons plus, je crois, la volonté au sein du collectif de parler de la ville amie de toutes les générations. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'occuper des personnes âgées et de leur mettre sur leur chemin du quotidien.